Chers amis auditrices et auditeurs, nous nous retrouvons pour un nouveau rendez-vous avec Mgr Laurent Camiat, évêque de notre diocèse de Cahors.
Bonjour.
Avec vous, Mgr, nous allons, comme lors de chacune de nos émissions, aborder des questions d'actualité internationale, puis nous reviendrons sur les événements qui marquent notre diocèse. Pour vous recevoir, Mgr, fidèle au poste, Jean-Claude Bonnemer, journaliste à la Vie Quercinoise, et moi-même, Pascal Bahut.
Bonjour.
Sans plus tarder, nous débutons cette émission, Jean-Claude, par la dimension internationale. Quels événements d'église avez-vous retenus ?
La persécution des chrétiens dans le monde en hausse, selon Portes Ouvertes. L'ONG protestante a publié à la mi-janvier son index mondial annuel 2026. Ainsi apparaît-il dans ces chiffres que depuis 2014, la persécution visant les minorités chrétiennes dans le monde ne cesse de s'accroître. L'an passé, 388 millions de chrétiens ont été visés en raison de leur foi. Ce phénomène qui n'est pas nouveau s'accentue. Que faire, Mgr Camiat ?
C'est vrai que d'abord, c'est de ne pas être indifférent, nous laisser toucher, parce que évidemment ça nous concerne, on aura envie de pas trop y penser. Et c'est vrai que le chiffre de 388 millions, c'est quand même assez impressionnant, même si c'est pas toujours une persécution sanglante, mais c'est quand même des personnes qui sont contestées, qui sont entravées dans leur vie à cause de leur foi chrétienne. Donc la première chose, c'est de nous laisser, nous comme chrétiens, on peut pas être indifférent à cela et on peut pas fuir cette réalité, d'autant plus qu'elle peut nous rejoindre assez vite, quelquefois dans telle ou telle activité professionnelle ou autre, ou même dans sa propre famille, on peut être bousculé à cause de sa foi chrétienne. Et j'ai envie simplement de relire quelques versets de la première lettre de Saint Pierre. Donc, c'est dans ça concerne les tout premiers chrétiens. C'est le premier pape qui s'adresse aux premiers chrétiens et qui leur dit, au chapitre 4, à partir du verset 12 de sa première lettre, il leur dit « Bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Mais dans la mesure où vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin que lors de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse. Si l'on vous outrage pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul d'entre vous n'ait à souffrir comme un meurtrier, voleur ou malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. » C'est très intéressant parce que dès le début, il montre que les chrétiens font l'expérience de l'épreuve, mais il nous dit attention, c'est parce que vous êtes meurtrier, voleur, etc., ne vous croyez pas persécuté. Là, c'est juste. Mais si c'est au nom du Christ, si c'est vraiment parce que vous aimez le Christ, si c'est vraiment parce que vous avez essayé de l'annoncer que vous êtes persécuté, à cause de votre identité de chrétien, alors réjouissez-vous. Peut-être que c'est quelque chose que nous avons à travailler sur nous-mêmes, savoir nous réjouir, de pouvoir épouser en quelque sorte le mouvement de la passion du Christ qui a donné sa vie pour nous sauver. Et dans notre diocèse, le saint patron, c'est saint Étienne, premier martyr. Alors nous pouvons nous référer aussi à lui, le courage qu'il a eu d'annoncer le Christ, même devant ceux qui ne voulaient pas l'accueillir, et ça a conduit pour lui à être lapidé, à mourir à coups de pierre. Donc voilà, je pense que il y a sûrement une solidarité de fond que nous avons à avoir avec les chrétiens persécutés, mais aussi peut-être leur témoignage, nous avons à le recevoir comme un encouragement, parce qu'ils témoignent de leur foi et nous avons à faire de même et ne pas avoir peur.
Alors peut-être que ça ne se sait pas forcément, mais parmi les migrants qui viennent dans le Lot, peut-être, je dis bien peut-être, quelques-uns fuient leur pays pour des questions de persécution ou en tout cas...
En effet, j'en ai rencontré, oui, il y en a quelques-uns, oui.
Mgr, l'Église célèbre chaque 2 février la présentation du Seigneur au Temple, également connue comme la fête de la Chandeleur. Cette date est aussi consacrée à la journée mondiale de prière pour la vie consacrée. qu'en est-il, Monseigneur Camillat, pour le diocèse de Cahors ?
Alors, comme partout, nous célébrons, nous avons célébré effectivement la présentation de Jésus au temple avec des cierges et le souvenir de ces paroles du vieillard Siméon qui accueille Jésus dans ses bras. C'est plein de tendresse cet évangile de ce vieillard qui accueille l'enfant Jésus dans ses bras et qui dit maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut, la lumière qui éclaire les nations. Voilà. Donc le Christ, l'accueillir comme ça, c'est très beau. Et c'est aussi ce qui nourrit effectivement la vie consacrée, les religieux, les religieuses, ceux qui vont se consacrer au nom d'un idéal religieux dans des congrégations religieuses. Alors dans notre diocèse, c'est votre question, nous avons la joie d'accueillir ces jours-ci, là depuis quelques semaines, les premières sœurs de Notre-Dame de la Salette qui viennent fonder une communauté à Rocamadour. Donc il y a déjà deux qui sont arrivés et deux autres qui vont arriver d'ici quelques semaines. J'ai eu la joie de signer le 30 janvier la convention avec la provinciale des Sœurs de Notre-Dame de la Salette pour cette communauté qui se fonde à Rocamadour et qui sera au service du sanctuaire. Donc c'est une nouvelle communauté avec des jeunes sœurs. Donc nous sommes très, très heureux de vivre d'avoir vécu ce 2 février en pensant à cet accueil d'une nouvelle communauté. La plupart des autres communautés présentes dans notre diocèse sont de moyenne d'âge assez élevée et nous avons pris l'habitude de retarder un peu la rencontre diocésaine des consacrés à une période où il fait un peu moins froid. Donc ce sera le 16 avril, nous retrouverons au Carmel de Figeac avec toutes les religieuses du diocèse, enfin toutes celles qui peuvent encore se déplacer, parce qu'il y en a certaines malheureusement qui ne sont plus en état. Mais voilà, c'est toujours une rencontre très sympathique qui permet aussi de fortifier, d'encourager la vocation de ces sœurs, quel que soit leur âge. Voilà, ce sera sûrement aussi une fête pour accueillir les nouvelles jeunes sœurs qui viennent d'arriver dans le Lot. Voilà. Je dirais donc, j'ai dit ces deux choses, l'accueil des sœurs, la journée que nous vivrons le 16 avril avec l'ensemble des religieuses du diocèse. Il y a peut-être deux autres choses que j'ai envie de dire. C'est que dans notre diocèse, nous prions tous les premiers vendredis du mois pour les vocations. Alors, on pense toujours aux vocations de prêtre, de diacre quelquefois, mais il faut penser vraiment aussi aux vocations religieuses. Donc, il faut continuer à prier pour les vocations. Et puis, la deuxième et quatrième dernière chose, c'est que nous avons dans notre diocèse aussi des modèles de saints. Sainte Fleur, qui était religieuse, à Issaint-Dolus, religieuse hospitalière, et Sainte Annette Pelleras, qui était carmélite, fait partie des carmélites de Compiègne, martyr, mais qui a été religieuse d'abord par vocation. Donc nous pouvons nous appuyer aussi sur ces modèles et sur ces intercessrices et peut-être faire connaître aussi aux jeunes ces modèles de sainteté que nous avons dans notre diocèse.
On peut peut-être aussi évoquer trois moines ou trois religieux qui sont originaires du Lot, à Tamier, chez les Dominicains.
Ah oui, aujourd'hui, oui, tout à fait. Oui. Après, des religieuses originaires du Lot, il y en a quelques-unes aussi qui sont aujourd'hui en vie. Et effectivement, des religieux aussi, des moines, oui, tout à fait.
Une religieuse à Boulors, notamment.
Oui, à Boulors et puis à Bagnères-de-Bigorre, à la communauté des Carmélites apostoliques. Enfin voilà, nous avons quelques vocations aussi de religieuses, mais elles ne restent pas toujours après, comme elles sont dans des congrégations. Nous, on accueillons des sœurs qui viennent d'ailleurs, mais celles qui viennent de chez nous vont aller vivre leur consécration et leur mission souvent ailleurs. Voilà.
Nous revenons sur un sujet national d'actualité avec l'euthanasie, la fin de vie, le suicide assisté, ce projet de loi qui connaît une vie parlementaire assez prolongée aussi, puisqu'il est dans le jeu des navettes entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Les évêques de France et vous-même, Monseigneur, êtes montés au créneau à ce sujet à de multiples reprises. Quelles sont vos recommandations et est-ce que vous avez eu, par exemple, quelques contacts avec nos parlementaires du Lot ?
Alors, il y a déjà longtemps, j'ai eu quelques contacts. J'ai écrit aussi à, j'avais écrit aux députés. Je sais que les sénateurs ont été rencontrés aussi par des chrétiens du diocèse qui sont allés à leur rencontre à ce sujet. Ce que j'invite surtout à faire pour l'ensemble de la population, parce que évidemment, c'est dans, comme vous dites, c'est dans le jeu des navettes parlementaires. Nous pouvons, et il y a sur le site de la Conférence des évêques, il y a des documents, il y a de quoi s'informer, il y a de quoi agir si on le veut, si on veut écrire, etc. Faire du lobbying, comme on dit. Mais je pense que d'abord, il faut soi-même y réfléchir, en parler, parce que on se rend compte que sur ce sujet-là, même parmi les chrétiens, notamment aussi parmi les non-chrétiens, il y a beaucoup de gens qui sont désinformés, dont le point de vue est biaisé parce qu'on manipule parfois le vocabulaire, les mots. On dit que mourir dans la dignité, c'est forcément être euthanasié. Je pense qu'évidemment, tout le monde veut mourir dans la dignité, mais tout le monde ne veut pas forcément être euthanasié. Il y a beaucoup de jeux de mots sur ce sujet-là. Donc, c'est important de réfléchir de quoi on parle. Je pense qu'aussi, il faut que nous développions une culture de la vie qui passe par le fait de soutenir les personnes malades autour de nous. On ne peut pas rester que dans les grandes idées ou dans l'abstrait ou dans comment j'imaginerais que moi-même je pourrais vivre les derniers instants, mais aller à la rencontre de ceux qui le vivent réellement et les soutenir, être auprès d'elles. Parce qu'en fait, quand quelqu'un dit « je veux mourir », c'est qu'il n'a plus personne autour de lui qui l'aime. Et c'est un drame profond. Donc c'est notre responsabilité de faire cette démarche, de cultiver la manifestation de l'amour que nous avons pour nos malades, pour les personnes fragilisées. Soutenir aussi toutes les personnes qui s'engagent et pourquoi pas s'engager dans les soins palliatifs, parce que les soins palliatifs comportent aussi le fait d'aller visiter des personnes, de les accompagner jusqu'au dernier moment. Et donc voilà, c'est essayer de développer une culture de la vie jusqu'au bout, pas dans l'abstrait, mais dans des actes concrets, dans l'accompagnement, dans l'encouragement. Voilà, et j'invite aussi vraiment beaucoup de chrétiens à aller visiter les malades. Je pense que c'est quelque chose qui doit faire partie de notre nos priorités de chrétiens. On ne peut pas simplement être dans l'incantation en disant ces méchants députés ou sénateurs qui ne vont pas forcément bien voter, mais nous, est-ce que nous développons une culture de la vie ou est-ce que finalement nous laissons aller une culture de l'individualisme où finalement les personnes se retrouvent seules au seuil de la mort et confrontées bien sûr à des situations plus ou moins inconfortables. Voilà, on sait que ceux qui travaillent dans les soins palliatifs nous disent bien clairement que quand les gens se sentent accompagnés, qui sont rendus grâce aux médicaments qu'on leur apporte, on atténue beaucoup la douleur et ils se sentent beaucoup plus confortables et que voilà, il y a un sens à leur vie parce qu'ils ne sont pas isolés, ils ne sont pas abandonnés, plus personne ne parle de demander la mort. Enfin, et cette loi donne un message complètement inverse. Si on dit, voilà, maintenant on a le droit de tuer quelqu'un, ça veut dire qu'un vieillard qui souffre, à la limite, il faudrait qu'il disparaisse plus vite et ça débarrasserait le plancher et on fera des économies à la sécurité sociale. Enfin, c'est assez monstrueux de penser comme ça et c'est comme ça que nous avons tendance à penser dans notre société, mais aussi parce que voilà, on va peut-être pas assez à la rencontre les uns des autres pour s'accompagner, se soutenir. Enfin, ce qui paraît du bon sens, mais voilà, j'encourage en tout cas à le faire.
Alors, même si à chacune de nos questions, vous avez évoqué la vie de notre diocèse, on va peut-être se tourner plus particulièrement justement sur cette vie-là, sur notre diocèse. Cette semaine ont eu lieu les obsèques du diacre Pierre Bello. Homme marié, père de famille, grandement engagé au sein de la paroisse de Cahors, en quoi son engagement dans l'Église, notamment à Cahors, a été marquant ?
Alors, je ne mesure sans doute pas tout, parce que, comme bien souvent, une personne a une grande richesse et ne fait pas toujours la publicité de tout ce qu'il vit. Ce que je peux dire, c'est que moi, je suis arrivé il y a 10 ans dans le diocèse, et donc il faisait partie du groupe des quelques diacres que nous avons dans notre diocèse. Et c'était vraiment une personnalité, une très belle personnalité, très, très constructive, très bienveillante, de relations très agréable. Je sais aussi qu'il est arrivé en fait dans le Lot en 2002, fin 2002, avec son épouse. Ils ont pris la retraite donc à Cahors. Ils avaient travaillé comme pharmaciens dans le Cantal, dans un village du Cantal. Et donc il avait été ordonné diacre en 1989 dans le Cantal. Donc il y a tout un passé aussi et tout un ministère qu'il a commencé à exercer donc pendant 12 ou 13 ans dans le Cantal. Donc ensuite il est arrivé à Cahors, bon, il y est resté donc plus d'une vingtaine d'années, 24 ans si je compte bien. Et puis il y a quelques années, il avait demandé aussi être incardiné dans le diocèse de Cahors, donc c'est-à-dire d'officialiser son lien avec le diocèse. Et il n'était plus diacre du Cantal, mais diacre du Lot. Enfin, et puis il faisait partie aussi, et ça depuis longtemps, de la communauté de l'Emmanuel, qui est une communauté qui regroupe surtout des laïcs et aussi des prêtres, des religieux, des religieuses, quelques-uns, mais qui est une communauté nouvelle du renouveau charismatique. C'était avec sa femme quelque chose qui nourrissait beaucoup leur vie, et il faisait partie de cercles de la communauté de l'Emmanuel qui existe aussi dans le Lot. Voilà, il était présent dans ce milieu-là, et il avait donc demandé, puisque je crois que c'est en 2019 que s'est créé les statuts de la communauté de l'Emmanuel ont un peu évolué, s'est créé une association cléricale de l'Emmanuel. Donc en tant que diacre, il fait partie du clergé, et donc il a demandé à intégrer cette association cléricale tout en restant incardiné dans le Lot. Voilà, donc c'est pour dire son lien avec l'Emmanuel jusqu'au bout, il l'a consolidé. Mais surtout sur Cahors, il est connu pour, d'une part, il a eu, avant que j'arrive, il avait été responsable diocésain de la pastorale de la santé, coordinateur, si vous voulez, de la pastorale de la santé. C'était un ancien pharmacien, donc ça paraissait assez naturel. Puis ensuite, bon, il avait été déchargé de ça, mais sur la paroisse de Cahors, c'était vraiment une figure qui faisait du lien entre les différentes personnes, aussi entre les prêtres et les laïcs, entre les groupes de prière et le reste de la communauté. Il avait vraiment le souci du lien entre tous, et ça, c'est quelque chose qui restera du rayonnement de sa belle personnalité, de son service de diacre. On dit quelquefois que le diacre, c'est un peu le ministre du lien qui doit renforcer la fraternité. Eh bien, je crois qu'il a bien rempli cette mission. Voilà.
Alors, Monseigneur, c'est peut-être une idée reçue, mais on aurait la sensation qu'il n'y a pas davantage de vocation chez les diacres permanents, c'est-à-dire ceux qui sont ordonnés dans l'état dans lequel ils vivent, qu'ils soient célibataires ou mariés, que chez les prêtres. Est-ce que c'est vrai et pourquoi ?
Alors oui, pas davantage, parce que c'est comme tout, il y a une crise de l'engagement dans la société dans laquelle nous sommes. Donc être diacre, on est ordonné pour toujours, et c'est un engagement, de même que le mariage, de même que de s'engager dans le célibat et de vivre le presbytérat pour toute sa vie. Enfin, ce sont des vocations qui demandent un engagement pour toujours, et je crois que c'est, enfin, il me semble que c'est une des causes du peu de ressources. Nous restons maintenant à 8 diacres dans notre diocèse. C'est pas beaucoup.
8 quand même.
C'est pas rien, mais voilà, il y en a deux en préparation. Donc on verra bien s'ils sont ordonnés. Voilà, mais ça prend toujours quelques années. Mais en fait, il me semble aussi que pour s'engager dans le diaconat, répondre à cet appel, il faut déjà, et j'entends un peu quelquefois ça dans quand on interpelle des gens en vue du diaconat, il faut déjà être dans un couple stable. dans une vie, enfin si on est marié en tout cas, et quelquefois il y a trop de fragilité déjà même dans le couple, et on se dit si on ne va pas rajouter le diaconat dessus, ça va encore peut-être compliquer les choses, ou au contraire, où c'est la vie professionnelle qui est instable, où on est en train de, dans une mutation, en train de changer de métier, donc on n'est pas disponible parce que l'énergie est mobilisée pour ça. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu tous ces éléments qui font que c'est pas si simple de s'engager dans le diaconat, parce qu'il faut une formation, etc. Si on n'est pas stabilisé dans sa vie, déjà. Et or, on vit dans un monde très instable qui ne favorise pas non plus des conditions de réponse à une vocation de ce type. Voilà. Il me semble que ce sont des raisons, en tout cas, que je perçois.
Ces derniers jours, vous avez promulgué pour le diocèse de Cahors un document intitulé « Repères pour l'accompagnement spirituel ». De quoi s'agit-il, Mgr Camiade ? Pouvez-vous nous expliciter les grandes lignes de ce document ?
Alors, c'est un peu difficile de dire en quelques mots, parce que justement, le document aide à préciser qu'est-ce que c'est que l'accompagnement spirituel. Parce que le mot accompagnement, aujourd'hui, on l'a un peu à toutes les sauces. Dans la tradition de l'Église, il y a plusieurs modes aussi d'accompagnement spirituel. Mais ce qu'on appelle habituellement l'accompagnement spirituel, c'est le fait d'être accompagné dans la durée, donc avec des rencontres régulières par quelqu'un qui peut être, l'accompagnateur peut être un prêtre ou peut être un laïc, à condition qu'il ait été formé, peut-être un diacre aussi qui a été formé. Le prêtre aussi, il a besoin d'une formation spécifique, ou en tout cas lui-même d'un accompagnement pour être accompagné. Enfin voilà, il y a un certain nombre de critères pour qu'il y ait une relation suivie. On s'est aperçu suite au rapport de la SIAZ, mais déjà un peu avant, que beaucoup d'abus, notamment les abus spirituels, c'est-à-dire les emprises sur les personnes, sont nés un peu comme des dérapages dans le cadre de l'accompagnement spirituel, si vous voulez. D'où la nécessité de cadrer les choses et de pas... ça a été une décision qui a été prise à la conférence des évêques de France, donc en novembre 2024. Nous avions décidé que nous promulguerions dans nos diocèses un document qui aide à recadrer un peu ce que c'est que l'accompagnement spirituel. Il y a des personnes qui demandent à être accompagnées régulièrement. Voilà, c'est différent du fait d'aller rencontrer un prêtre, par exemple, pour se confier à lui pour une écoute ponctuelle. On n'est pas dans l'accompagnement, on est dans une écoute. Ou de venir se préparer au baptême ou au mariage, c'est quelque chose de... ça, c'est la rencontre pastorale ordinaire. Mais les conseils pour l'accompagnement spirituel peuvent aussi valoir, en partie, en tout cas, pour ce genre de situation. Donc ça fait grandir, en fait, la qualité de la relation pastorale, de la relation d'accompagnement, quelle qu'elle soit, le fait d'avoir ce document-là. Donc on avait décidé ça avec les évêques en 2024. L'année dernière, en janvier 2025, nous avions travaillé ça déjà avec les prêtres. On avait vu qu'il y avait beaucoup de questions et on l'a laissé mûrir un peu et on l'a finalisé par un travail aussi assez approfondi en janvier lors de la rencontre du conseil presbytéral. On a eu un petit enseignement, un témoignage sur cette question. On a eu plusieurs échanges et on a remodifié encore quelques détails du document qu'on appelle donc repères pour l'accompagnement spirituel. Et qui a été publié. Et il est en ligne sur le site du diocèse, donc c'est assez facile de le trouver pour ceux qui veulent justement être accompagnés ou se demandent un peu ce que c'est et quels sont ces critères. Voilà.
L'avenir de nos églises dans le Lot, tel est l'intitulé d'une rencontre organisée en ce mois de février par les services diocésains de la pastorale liturgique sacramentelle et de l'art sacré. Que préconisez-vous à ce sujet ?
Eh bien, ce que je préconise, c'est cette rencontre, c'est la deuxième version, je ne sais pas comment il faut dire, deuxième proposition d'une rencontre qui avait déjà eu lieu l'année dernière, mais qui avait eu lieu plutôt dans l'ouest du département. Cette fois-ci, c'est à la Capelle Marival, si je ne me trompe pas. Donc, c'est, voilà, comme ça, on couvre un peu plus le territoire, mais c'est la même proposition. Et en fait, ce que je préconise par rapport à l'avenir de nos églises, hein, pour le dire de manière très brève, c'est de les habiter, de les ouvrir le plus possible, voilà, avec des choses très simples, mais qui demandent en fait beaucoup d'énergie, beaucoup de dévouement, et on n'a pas ça partout. Pour ça, que l'église soit accueillante, qu'elle ait un sens, il faut déjà qu'elle soit propre. Ça n'a l'air de rien, mais c'est beaucoup de travail. Quand on voit une église sale, ben on se dit elle est à l'abandon. Quand on voit une église propre où la nappe d'autel est bien repassée, où les cierges sont pas à moitié de guingois, ou enfin c'est plein de petits détails qui font qu'on se dit ah c'est habité, il y a des gens qui prient ici. Voilà, donc déjà la propreté, c'est bien s'il y a dans l'église des disponibles des textes pour prier, des explications sur tel ou tel lieu de l'église, enfin ça permet que les gens se sentent accueillis dans cette église, et puis voilà, s'il y a des cierges, des bougies de dévotion, c'est aussi, ça peut permettre à toute personne même qui passe de prier. Et puis bien sûr, donc j'encourage d'habiter ces églises, c'est-à-dire d'aller y prier, d'organiser peut-être des temps de prière, des chapelets, et en fait la journée qui avait eu lieu l'année dernière a montré que tous les gens qui étaient venus n'étaient pas dans l'optique de dire oulala, on va abandonner nos églises. Non, c'était ben nous, on a eu telle idée, nous, on a fait ça, on a pris telle initiative. Et on sent qu'il y a quand même beaucoup de chrétiens qui sont motivés pour faire vivre et habiter leurs églises. Et donc, je les remercie aussi. Voilà, je les encourage.
Alors, plusieurs rendez-vous de sortie et de pèlerinage se sont inscrits au calendrier de cette année. J'imagine que vous avez des dates ou des propositions à nous partager.
Alors, je vois que ce qui avait été repéré, c'était par exemple le week-end avec les servants d'hôtel et servants d'assemblée à Échourniac, qui va avoir lieu donc, dans quelques semaines. En fait, c'est quelque chose qui est né d'une initiative d'aller à la rencontre des groupes d'enfants de cœur dans l'ensemble du diocèse, et qui avait amené une cinquantaine de jeunes à Gourdon pour une journée le 15 novembre. Et en fait, c'est apparu vraiment chez ces enfants un besoin de se retrouver, de se former. Donc c'est une très belle chose et c'est très heureux. Quelquefois dans les villages, on voit un ou deux ou trois enfants de cœur, mais en regrouper 50, ben c'est encourageant aussi pour eux. Et c'est une très belle expérience qui leur est proposée, un peu comme une petite retraite, mais un moment de formation aussi et de rencontre, d'encouragement. Et voilà, puis il y a aussi le pèlerinage pour les enfants des familles à Lourdes du 27 au 30 avril. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent chaque année. Et c'est une proposition catéchétique qui réunit les enfants, mais aussi leurs parents ou un certain nombre de parents. Et c'est quelque chose de très, très nourrissant. C'est évidemment en lien avec le pèlerinage diocésain qui a lieu aussi du 27 avril au 1er mai.
Alors justement, ce pèlerinage diocésain, nous pourrons peut-être l'aborder de manière plus ample la prochaine fois, puisque nous voudrions évoquer aussi une information de dernière minute, si j'ose dire, le lancement du diocèse dans la communication sur smartphone avec l'application Ecclesia. De quoi s'agit-il, Monseigneur ? On pense tout de suite à une application sur le même principe que Intramuros ou Panopocket pour les mairies.
C'est ça, c'est tout à fait ça, puisque l'organisme qui a produit l'application Ecclesia, c'est le même qui a créé Intramuros. Donc c'est effectivement dans la même veine. C'est-à-dire, en fait, c'est un outil pour rendre plus accessibles les informations qui sont données par le diocèse et par les paroisses. La particularité de cette application Ecclesia, c'est qu'elle met, donc c'est sous forme de notification que l'on peut recevoir si on a téléchargé l'application. Donc c'est très facile, vous allez sur n'importe quelle plateforme de téléchargement d'application, là suivant que vous avez.
Qui ne coûte pas trop cher ?
C'est gratuit, elle est gratuite, hein, elle est gratuite. Voilà, elle est
comme les applications mairie.
Elle est tout à fait gratuite, c'est le diocèse qui paye. Oui. Voilà. Et donc, dès que vous avez téléchargé, vous pouvez vous géolocaliser, donc votre paroisse est repérée, et vous savez de quelle paroisse vous êtes, et vous recevez donc automatiquement, après c'est vous qui choisissez les notifications que vous voulez recevoir ou pas, mais vous pouvez recevoir très facilement les nouvelles de la paroisse et les nouvelles du diocèse. Donc, et ça fonctionne vraiment de manière très fluide en lien avec le site des paroisses, le site internet des paroisses et le site internet du diocèse. Donc ce sont les mêmes informations que l'on retrouve, mais qui sont accessibles de manière plus simple dans la poche avec le téléphone, le smartphone. Voilà. Et comme beaucoup de gens aujourd'hui ont des smartphones et téléchargent des applications, les grands-mères ou grands-pères quelquefois demandent à leurs petits-enfants de télécharger l'application. Et ça marche aussi très bien comme ça, parce qu'il n'y arrive pas toujours du premier coup. Mais ce que je peux dire, moi, je ne suis pas très, très doué pour tout ça, mais j'ai trouvé extrêmement facile vraiment l'accès à Ecclesia. Et donc, je pense que c'est un outil qui va faciliter la communication dans notre diocèse, et c'est une très bonne chose.
Cette émission touche à sa fin. Merci à Mgr Laurent Camiat pour ce temps de rencontre accordé à nos auditrices et auditeurs. Nous nous retrouverons très prochainement pour vivre ensemble un nouveau moment de dialogue. Imanol, lui aussi fidèle au poste, était à la technique de notre émission. Merci, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité.